Il suffit d'imaginer un instant la scène, obtenir un véritable droit de vote sur la ligne éditoriale d'une station de radio internationale.
Ah ouais, avec une capacité de décision bien réelle en plus.
Exactement. Et tout ça pour le simple plus de 2 ou 3 cafés en terrasse par an. C'est quand même assez fou.
Surtout que c'est pas une simple cagnotte en ligne, quoi. C'est pas, on donne pas un don symbolique juste pour recevoir un vieil autocollant ou un tote bag.
Non, là, on parle vraiment d'un pouvoir décisionnel direct sur un média. Et en fait, c'est le pari assez dingue du document sur lequel on se penche aujourd'hui pour cette nouvelle exploration. Il s'agit d'une plateforme qui s'appelle Radio Tom Tam Africa.
Et ce texte qu'on a épluché, c'est un mélange assez hybride pour le coup.
Ouais, carrément. C'est à la fois un manifeste, un appel à l'action très très concret et surtout une redéfinition totale de ce que signifie l'engagement médiatique de nos jours.
Dès la première lecture, moi ce qui m'a frappé, c'est vraiment l'ambition affichée. Le texte y s'ouvre sur une devise qui pose d'emblée un cadre géopolitique et culturel massif. Ils disent, et je cite, « la voix africaine est celle de sa diaspora dans le monde ».
Rien que ça.
Voilà, rien que ça. L'enjeu, c'est pas simplement de diffuser de la musique ou des petites nouvelles locales le matin. C'est de relier une population entière qui est dispersée à l'échelle mondiale.
Et pour faire ça, le document, il rejette complètement la passivité traditionnelle qu'on attend d'un auditeur.
Absolument. Ils attaquent de front, dès les premières lignes, avec une question hyper directe. Genre, et vous? Comment choisissez-vous de vous engager?
Bam. Le ton est donné, quoi.
C'est clair. On n'est plus du tout dans la consommation passive.
Ouais, et cette approche, en fait, elle remet en question la vieille architecture de la communication. Si on y réfléchit, historiquement, une radio, c'est comme un grand amphithéâtre.
Mm-hmm.
D'un côté, t'as l'émetteur, tu sais, le présentateur vedette bien installé dans sa cabine isonorisée.
Le sachant, quoi.
Exactement. Et de l'autre côté, bah, t'as une foule silencieuse dans l'ombre. L'information, elle descend en cascade, du haut vers le bas.
C'est le modèle classique, ouais. Top-down.
Voilà. Mais avant même de comprendre comment ce média compte casser cet amphithéâtre, moi j'ai été super interpellée par leur définition même de la parole. Ils répètent un mantra, vraiment, tout au long du texte. Ils disent que, attends, je retrouve la phrase, « la parole est une force. Une force pour informer, une force pour transmettre, une force pour transformer. »
C'est puissant comme progression.
Mais carrément. Et si on s'arrête juste là-dessus une seconde, ils décrivent pas la communication comme une espèce d'onde sonore invisible qui s'évapore dans l'heure. Ils la décrivent littéralement comme une machinerie lourde, tu vois. Une énergie cinétique qui est vraiment palpable. Ce n'est pas juste du bruit, c'est un outil de construction.
Ouais, c'est une métaphore extrêmement juste. Et c'est là qu'il faut vraiment regarder la mécanique de ces 3 verbes précis. Informer, transmettre, transformer. Pour faire joli. C'est une chaîne de causalité implacable. D'abord, on a informé. Dans le contexte spécifique d'une diaspora, bah, l'information brute, c'est littéralement une ressource de survie culturelle.
La brique de base, en quelque sorte.
Exactement. C'est la matière première. Faut bien se rendre compte que beaucoup de communautés exilées, elles souffrent d'une déconnexion factuelle assez sévère avec leur continent d'origine.
Et cette déconnexion, elle est souvent alimentée par les médias généralistes d'ici, non?
Tout à fait. Les grands médias qui, la plupart du temps, ne couvrent l'Afrique qu'à travers le prisme des crises, des guerres ou des famines. Donc reprendre le contrôle de l'information brute, c'est vital.
Ok. Donc ma formation, c'est la brique de base. Ça, c'est très clair. Mais l'étape d'après, transmettre, ça me semble un poil plus abstrait.
Ouais, je comprends.
Transmettre quoi exactement? Je veux dire... Une fois qu'on a donné les nouvelles du jour, qu'est-ce qu'on transmet de plus?
Eh bien, là, on passe vraiment de l'objectif à l'identitaire. La transmission, si on garde ton analogie de la construction, c'est le mortier qui vient relier les briques.
Oh, j'aime beaucoup ça.
C'est le relais intergénérationnel, tu vois. Quand une diaspora s'installe ailleurs, dans un autre pays, le risque principal, c'est l'assimilation silencieuse. C'est la perte progressive des récits originels.
Que les enfants oublient l'histoire de leurs parents, en gros.
C'est ça. Transmettre, c'est s'assurer que l'information qu'on a donnée, bah, elle n'est pas seulement consommée sur le moment, mais qu'elle devient un véritable héritage.
Ouais, je vois très bien.
Et c'est justement ce qui rend le 3e verbe de leur mantra, transformer, totalement inévitable.
Parce que l'action suit la transmission.
Exactement. Une fois qu'une communauté est informée de manière factuelle et qu'elle est consolidée culturellement par la transmission de son héritage, elle ne peut plus rester statique.
C'est impossible, ouais.
Elle devient capable d'agir sur son environnement immédiat, de peser sur les décisions publiques. Bref, elle est en mesure de transformer la réalité.
C'est super intéressant parce que ça veut dire qu'en creux, ce manifeste définit le silence d'une manière assez radicale, finalement.
Comment ça?
Bah, si la parole, c'est un outil de construction, comme on vient de le dire, alors se taire, c'est pas juste une posture neutre ou paisible.
Ah oui, je vois où tu veux en venir.
Le silence, ça devient presque une forme de désertion sur le chantier, quoi. Ne pas parler, c'est refuser de fournir la brique de l'information. C'est laisser sécher le mortier de la transmission et c'est stopper net toute possibilité de transformation.
Mais c'est même pire que ça, en fait.
Vraiment, ouais.
Ouais, parce que dans l'écosystème médiatique actuel, le silence d'une diaspora, ça équivaut à laisser d'autres voix raconter son histoire à sa place. Le mutisme, dans ce contexte-là, ça devient une capitulation.
Une capitulation, waouh. D'accord, je saisis vraiment la philosophie profonde du truc, là.
Ouais, le texte pose des fondations très solides.
Mais du coup, si la parole est une machinerie lourde, comme tu disais, il faut un sacré terrain pour l'utiliser sans tout ravager sur son passage, non ?
C'est sûr.
Et c'est ce qui nous amène à la façon dont Radio Tam Tam Africa définit sa propre structure. Le texte affirme très très clairement que ce n'est, et je cite encore, « pas seulement une radio ».
Ouais, ils insistent beaucoup là-dessus.
Ils utilisent des termes comme « espace libre » ou « média indépendant ». Mais surtout, et c'est là que j'ai vraiment bloqué à la lecture, ils parlent d'un laboratoire d'idées. Un laboratoire porté par ceux qui refusent le silence, disent-ils.
Le terme est fort, oui.
Honnêtement, j'ai besoin qu'on s'arrête 2 minutes sur ce mot. Un laboratoire. Par définition, un labo, c'est un endroit où l'on teste des hypothèses, où l'on fait des expériences, où on mélange des produits chimiques avec le risque réel que ça nous explose au visage, quoi.
C'est un espace d'essai, oui, totalement.
Mais est-ce qu'un média peut vraiment se permettre d'être un laboratoire? C'est là que ça devient super intéressant. Est-ce que cela signifie que le média privilégie l'expérimentation pure sur le formatage radiophonique traditionnel?
C'est une excellente question. Et la réponse est oui.
Ils acceptent l'erreur, alors. Le formatage un peu hasardeux, voire l'échec total d'une émission, juste pour le principe de tester.
Oui, mais il faut voir ce laboratoire, non pas comme une apologie du manque de professionnalisme, hein, c'est pas ça du tout. C'est plutôt un refus catégorique du mimétisme.
Du mimétisme par rapport aux grandes chaînes.
Exactement. C'est une question de survie éditoriale pure et simple. Historiquement, quand une communauté marginalisée ou une diaspora veut créer un média pour se faire entendre, elle subit une pression énorme, mais vraiment énorme, pour se conformer aux standards lisses et aseptisés des médias dominants de son pays d'accueil.
Genre avoir le même type de jingle, le même rythme très speed.
Voilà. On exige d'elle qu'elle rentre sagement dans un moule préexistant, des chroniques de 3 minutes chrono, des débats très polarisés pour faire du clash, une esthétique sonore ultra formatée.
Pour prouver qu'elle est légitime, en quelque sorte. C'est une injonction à ressembler aux autres.
Précisément. L'injonction, elle est très claire. Pour être entendue, parler comme nous. Et en se revendiquant ouvertement comme un laboratoire d'idées, bah la plateforme s'affranchit brutalement de cette injonction.
C'est une façon de dire non.
C'est que ça. Créer cet espace d'expérimentation dans le fond, c'est un acte de résistance contre l'invisibilité institutionnelle.
C'est fort.
Ils annoncent en fait qu'ils vont souffler leurs propres éprouvettes. Ils vont créer de nouveaux formats narratifs qui correspondent vraiment à leur rythme culturel, tu vois, à leur tradition orale ou tout simplement à leurs besoins politiques du moment qui ne rentrent pas dans une case de 3 minutes.
Donc l'erreur ou le tâtonnement, c'est pas perçu comme un défaut ?
Non, au contraire. C'est la preuve vivante que la recherche d'une voix authentique est en cours.
C'est une déclaration d'indépendance intellectuelle assez audacieuse, quoi, on y pense.
Très audacieuse, oui.
Mais l'idéalisme d'un laboratoire, ça se heurte quand même très vite au principe de réalité. Je veux dire, c'est fascinant d'avoir un espace libre pour expérimenter, d'accord, mais concrètement, qui manipule les éprouvettes ?
Ah, la question de l'équipe.
Bah oui, comment ils attirent les chercheurs dans ce fameux labo ? Et là, le document opère un virage que j'ai trouvé extrêmement pragmatique. Il passe de la grande théorie philosophique à la logistique pure.
Ouais, on atterrit sur le terrain, là.
Il lance un appel à contribution directe avec une simple adresse mail, contact@radiotamtam.info. C'est tout. Et c'est l'ampleur des rôles qui sont proposés qui m'a vraiment surprise.
On est bien loin du simple casting de présentateur à la voix de velours.
Ah, mais complètement. Ils cherchent pas du tout la prochaine voix suave de la bande FM pour faire les matinales.
Non, pas du tout.
Le texte, il liste des besoins fondamentaux pour faire tourner la machine entière. Alors oui, bien sûr, on y propose d'animer une émission, c'est la base. Mais ils appellent aussi à produire du contenu en amont, à faire de la recherche, à couvrir des événements sur le terrain. Et le truc le plus fou, ils invitent les gens à participer à la technique.
Et c'est crucial, ça.
Mais c'est ce point précis qui m'intrigue le plus. Pourquoi mettre en avant la technique, qui est généralement la chasse gardée absolue des ingénieurs du son, invisibles dans leur bocal? Le texte enrobe ça, d'ailleurs. Ils disent « chaque proposition est étudiée avec attention parce que, selon eux, chaque voix compte ».
Ouais, alors ça, c'est pas un détail. La technique, en fait, c'est le verrou principal des médias traditionnels.
Comment ça, le verrou?
Bah, c'est par la technique et par tout le jargon qui va avec que l'on maintient le grand public à distance. C'est une barrière invisible. En proposant à quiconque d'intégrer non seulement l'animation, mais aussi l'ingénierie technique ou la recherche éditoriale de fond, ce modèle participatif démystifie totalement l'outil de production.
Ça casse le mythe de la radio inaccessible.
Exactement. La barrière à l'entrée, elle est intentionnellement pulvérisée.
Mais attends, l'objectif de cette manœuvre, c'est pas un peu dangereux ?
Dangereux ?
Bah, n'y a-t-il pas un risque de dilution énorme de la qualité ?
Je veux dire, si j'envoie un mail demain là, pour dire que je veux m'occuper de la réalisation sonore de leur tranche info, sans avoir jamais touché une console de mixage de ma vie, juste avec ma bonne volonté et mon sourire.
Alors, c'est là qu'il faut se rappeler de la phrase clé que tu as citée juste avant. Étudier avec attention. D'accord.
L'objectif n'est pas de baisser le niveau d'exigence ou de faire du travail d'amateur. Le laboratoire encadre l'expérimentation, tu vois ?
Donc il lâche pas les gens seuls devant les boutons ?
Non, voilà. L'idée de fond, c'est que la diaspora est un gisement de compétences très hétérogènes qui sont souvent sous-exploitées. L'objectif, c'est de s'assurer qu'aucune compétence présente au sein de cette communauté ne soit gaspillée sous le simple prétexte qu'elle n'a pas le bon diplôme estampillé par une école classique.
Ah, je vois. C'est une sorte de recyclage des talents.
Oui. Prends un exemple. Un ancien journaliste politique exilé, qui n'arrive pas à percer ici à cause de la barrière de la langue ou du diplôme, bah, il peut tout à fait se retrouver à faire la recherche éditoriale en amont.
Ouais.
Il la fera, disons, pour une jeune animatrice très à l'aise, elle, au micro, née dans le pays d'accueil. De la même façon, un passionné d'informatique qui bidouille dans son coin peut s'improviser technicien de diffusion et apporter un vrai savoir-faire.
Donc le média se positionne vraiment comme un agrégateur de talents isolés.
C'est le mot parfait. Un agrégateur. En isolant ces profils, les médias traditionnels s'assurent d'une certaine manière qu'ils n'auront jamais d'impact global. Mais en les réunissant tous sous un même toit et surtout en leur donnant accès aux manettes techniques, on recrée cette fameuse énergie cinétique dont on parlait au début.
Celle qui est capable de transformer.
Exactement. On boucle la boucle de leur philosophie.
Ok, je vois très bien. L'inclusion technique, c'est donc pas juste une lubie, c'est une vraie stratégie d'autonomisation globale.
Tout à fait.
Mais soyons prosaïques un petit instant. On a dit que c'était une machinerie lourde.
Oui.
Et une machinerie, bah, ça a besoin de carburant pour tourner.
C'est inévitable.
Il y a des serveurs de diffusion à payer, des licences, du matériel technique de pointe, le loyer. Tout cela représente un coût fixe, c'est indéniable.
Ah oui, l'indépendance, ça coûte cher.
Et c'est bien ça le cœur du problème. Si on a un laboratoire indépendant géré par une multitude de passionnés qui s'essayent à la technique et à l'animation, la vraie question, c'est qui possède les murs ? Qui a le dernier mot quand il faut trancher une décision éditoriale complexe ou juste, basiquement, payer la facture d'électricité à la fin du mois.
Et c'est là qu'on arrive au cœur du réacteur.
Ouais, ce fameux segment sur l'adhésion financière qui est détaillé dans le texte. Et honnêtement, il m'a laissé assez perplexe au début.
Ça ne m'étonne pas. C'est le nerf de la guerre de tout projet d'indépendance. Le modèle financier qu'ils choisissent, c'est vraiment ce qui valide ou, au contraire, ce qui invalide tout le discours idéaliste précédent.
Et alors là, leur modèle y repose sur une adhésion fixée à 20 euros. 20 euros par an.
Ouais, c'est pas grand-chose.
Bah, je le disais en ouverture, on parle de l'équivalent de quelques cafés en terrasse, quoi. Ou même pas, un mois et demi d'abonnement à une plateforme de streaming vidéo classique.
C'est très accessible.
Sauf que ce document affirme noir sur blanc que cette modeste contribution de 20 euros, bah, elle confère des avantages structurels majeurs à celui qui la paye.
Et c'est là toute la différence.
Le texte promet carrément aux adhérents de, je cite, « participer activement, d'obtenir un droit de vote et de prendre part aux décisions ». L'objectif assumé de cette cotisation, c'est de construire cette fameuse radio libre. Mais très franchement, accorder un véritable pouvoir décisionnel sur la ligne d'un média international contre une somme aussi dérisoire, n'est-ce pas la recette parfaite pour générer une cacophonie ingouvernable ? Je veux dire, si demain ils ont besoin de fonds sérieux, pourquoi ne pas chercher de vrais mécènes, des gros investisseurs ?
C'est la réflexion logique qu'on aurait dans un modèle d'affaires classique. Mais aller chercher de grands mécènes, dans leur cas précis, c'est signer l'arrêt de mort de l'indépendance qu'ils revendiquent si ardemment plus haut dans le texte.
Tu penses qu'un mécène exigerait forcément un droit de regard ?
Toujours. Ce qui est théorisé dans cette source, c'est fascinant. Parce que ce n'est absolument pas une simple offre de soutien à la façon d'un don de charité. Tu vois les campagnes où on te dit « soutenez-nous pour qu'on survive ».
Oui, oui, bien sûr.
Bah là, c'est pas ça. Ce n'est pas non plus un abonnement classique au sens où on l'entend, tu sais, le truc qui donnerait droit à des podcasts exclusifs en avant-première ou une écoute sans publicité.
Oui, le modèle VIP, quoi.
Voilà. Ce que le document décrit, en filigrane, et c'est vraiment brillant, c'est la mise en place d'un véritable modèle de gouvernance de type coopérative.
Une coopérative médiatique ?
Exactement. Et le tarif de 20 euros, il n'est pas choisi par hasard, par excès de naïveté. Sa modicité, en réalité, c'est une arme politique redoutable.
Une arme politique.
En fixant le prix au plus bas possible, je dois avouer que je ne te suis pas complètement là. Oui, réfléchis-y. En fixant la barre aussi bas, ça empêche de fait la création d'une oligarchie financière au sein même de la diaspora.
Ah !
Pensons aux modèles de financement participatif habituels qu'on connaît tous sur Internet avec leur fameux système de paliers de récompense.
Genre, si je donne 10 euros, j'ai mon nom sur le site ?
Voilà, si tu donnes 10 euros, t'as un grand merci par mail, mais si tu donnes 1000 euros, soudainement, tu dînes avec le rédacteur en chef, tu visites les studios et, implicitement, tu pourras murmurer tes petites idées à son oreille.
Le pouvoir y est totalement proportionnel à la richesse, ouais.
Exactement, c'est la dérive classique. Ici, avec ce qu'il propose, on a un tarif unique et bas, qui est assorti d'un droit de vote égalitaire. Ça veut dire que l'ingénieur aisé de la diaspora, qui vit dans un beau quartier de Londres, a exactement le même poids décisionnel, la même voix, que l'étudiant précaire qui vient tout juste d'arriver à Paris et qui galère pour payer son loyer.
C'est hyper puissant vu comme ça.
Ça garantit structurellement que la ligne éditoriale du média reste foncièrement populaire. Elle ne peut pas être confisquée par une élite.
C'est un blindage contre les influences extérieures, en somme.
Contre les influences extérieures, oui, et intérieures aussi. L'indépendance radiophonique, faut pas se leurrer, elle est généralement détruite par trois entités majeures.
Lesquelles ?
D'abord, les grands conglomérats financiers qui rachètent les fréquences en bloc.
Ok.
Ensuite, les subventions d'État, qui viennent littéralement toujours avec des cordes attachées, des petits renvois d'ascenseurs attendus.
C'est sûr.
Et enfin, les annonceurs publicitaires, qui vont dicter quel contenu est devenu trop risqué ou clivant pour leur marque.
Ouais, le fameux boycott des annonceurs.
C'est ça. En fragmentant leur financement en milliers de micro-contributions de 20 euros, le média se rend quasiment invulnérable à ces pressions-là. On dilue le risque de contrôle en responsabilisant massivement l'audience.
D'accord, je comprends la mécanique. Donc l'auditeur qui adhère à cette plateforme, il n'achète pas un produit fini à consommer ?
Non, pas du tout.
Il achète littéralement une parcelle du chantier. Il devient en fait copropriétaire des murs du fameux laboratoire dont on parlait tout à l'heure.
C'est exactement ça. D'ailleurs, il y a un terme très très fort à la toute fin du document qui prend vraiment tout son sens à la lumière de ce modèle économique coopératif.
Lequel ?
Le texte qualifie la station de, et c'est en majuscule, « voix des peuples ».
Oui, j'avais noté ça.
Hors contexte, on pourrait très bien balayer ça d'un revers de la main. On pourrait dire « bon, c'est une jolie formule rhétorique » ou « c'est un peu grandiloquent, c'est du marketing de gauche ». Quoi.
C'est souvent le cas dans les manifestes. Ouais.
Mais là, adossé à un système concret où l'audience paie la même somme, vote les décisions, propose directement des émissions et vient elle-même manipuler la technique dans les studios, bah, ce n'est plus du tout de la poésie.
C'est factuel.
C'est une description purement contractuelle de leur modèle. La voix appartient, littéralement et légalement, à cette foule qui forme le peuple.
C'est vertigineux, quand on assemble toutes les pièces du puzzle comme ça.
C'est un modèle fascinant.
Au cours de cette analyse, l'image que nous renvoie ce document, elle a radicalement évolué. On est parti d'une simple invitation radiophonique, tu sais, un joli mantra affirmant que la parole était un outil de transformation.
Ouais, le côté très théorique du début.
Ensuite, on a vu cet outil s'installer dans un vrai laboratoire d'idées, refusant la visibilité et les formats très lisses imposés par l'extérieur.
Mmh.
Puis, on a constaté que les portes de ce labo étaient grandes ouvertes, invitant quiconque à s'emparer des recherches ou même de la console de mixage. Et enfin, on vient de découvrir le ciment de tout cet édifice. Une copropriété à 20 euros par an, garantissant une indépendance farouche face aux logiques marchandes habituelles. En fait, c'est un rejet absolu et total de la séparation historique entre ceux qui émettent le savoir et ceux qui le consomment.
C'est la mort de l'amphithéâtre dont tu parlais au début. Et d'ailleurs, le document, il scelle toute cette architecture avec une conclusion d'une très grande intensité émotionnelle.
La phrase de fin, oui.
Il stipule, noir sur blanc, « S'engager, ce n'est pas attendre que le monde change. C'est décider d'en faire partie. C'est la matérialisation de leur objectif final. Quitter définitivement les gradins de l'amphithéâtre pour descendre soi-même sur le terrain de la création. »
Et c'est une très belle conclusion, mais ça amène inévitablement une réflexion beaucoup plus large sur les implications d'un tel modèle à l'échelle globale.
Où veux-tu en venir ?
Bah, si l'on pousse la logique de ce manifeste jusqu'au bout du bout, on se retrouve face à un paradoxe qui me semble hyper intéressant.
Ah,
Lequel ?
C'est
l'idée que chaque auditeur doit devenir un créateur, un décideur, et s'investir totalement dans un espace indépendant et protégé. Sur le papier, c'est intellectuellement super séduisant.
Oui, c'est l'utopie démocratique parfaite.
Mais si ce modèle d'engagement total venait à devenir la norme absolue pour toutes les communautés, le paysage médiatique s'en trouverait complètement bouleversé.
C'est certain. Une fragmentation assez sévère de l'espace public s'opérerait, inévitablement.
Et c'est là toute la complexité du problème. En fuyant les grands médias généralistes qui les marginalisent ou les caricaturent pour construire leur propre laboratoire autogéré, c'est génial, les diasporas trouvent enfin leur voie authentique.
C'est une victoire en soi.
Oui, mais si chaque groupe culturel, chaque petite communauté d'intérêt s'enferme dans son propre écosystème parfait, où tout le monde crée et vote en circuit fermé, entre soi, ne risque-t-on pas de perdre l'idée même d'une culture commune, partagée par tous ?
C'est le risque de la chambre d'écho, oui.
Exactement. Si l'engagement ultime, ça consiste à bâtir des murs super solides autour de sa propre radio pour en protéger jalousement l'indépendance, on peut vraiment se demander si cela conduit à une véritable libération de la parole mondiale ou juste à la création d'une multitude de micro-bulles créatives qui, au bout du compte, ne s'écouteront même plus les unes les autres.
C'est une vraie question. Et c'est d'ailleurs le défi inhérent à toute forme de sécession médiatique. Protéger sa voix de la dissolution dans le bruit ambiant, sans pour autant renoncer à s'adresser au reste du monde.
C'est un équilibre super précaire.
C'est la tension permanente entre l'indépendance vitale d'un laboratoire bien fermé pour expérimenter en paix et la nécessité de ne pas s'isoler indéfiniment dans ce même laboratoire.
Une tension qui souligne en tout cas à quel point l'acte d'écouter, de financer ou même de prendre la parole n'a plus rien de trivial aujourd'hui.
Ça, c'est clair. Le silence n'est plus une option.
En tout cas, l'exploration de ce document nous a permis de lever le voile sur des mécaniques complexes, rappelant que derrière chaque petite onde sonore que l'on capte se cache une véritable architecture de pouvoir. Ça laisse énormément de matière à réflexion sur la manière dont l'espace sonore est occupé aujourd'hui et sur les modèles de participation de demain. L'analyse s'achève ici pour cette session. À la prochaine pour une nouvelle plongée en profondeur.